C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mardi 31 janvier, bonne journée et bienvenue au 98.5. On commence ce matin avec le dossier de la conseillère en islamophobie, Amira El-Gawabi. Il s'est dit beaucoup de choses hier, on va essayer de résumer ça. D'abord, le Bloc québécois a demandé une rencontre avec elle pour essayer de comprendre ce qu'elle dit exactement, le fond de sa pensée. Elle a présenté des excuses assez nuancées. D'ailleurs, ce matin, vous retrouvez dans le Globe and Mail un extrait d'entrevue où elle dit « J'ai cité un sondage léger qui montre que les Québécois sont intolérants face aux musulmans. » Tout ça dans le cadre du débat sur la laïcité. Donc, elle ne s'excuse pas, elle fait simplement dire, je cite des données de sondage. On ne peut pas dire là, que ça ouvre la porte à une réconciliation ou à une stratégie pour établir des ponts. Mais M. Trudeau, puis là, il faut comprendre le premier ministre. Le premier ministre, lui, il défend les droits et libertés des minorités à tout prix. M. Trudeau, c'est pas inconscient. Il fait des nominations un peu du même genre, de gens qui tiennent des propos souvent contre le Québec, souvent contre les majorités, en voulant un peu dépeindre les Québécois comme étant des racistes, donc des xénophobes, et de mêler dans la marmite tout le débat sur la laïcité. Alors, il a dit, moi ça me convient ce qu'elle a fourni comme argumentaire. Parfait, c'est réglé. Bon, le gouvernement Legault dit, faut la remplacer. Les libéraux du Québec, fidèles à leur habitude, se sont enfargés dans leur bottine hier. Jennifer McCarron a dit que c'est épouvantable ce que la CAQ fait. Mais Marc Tanguay a dit qu'il n'était pas à l'aise avec les propos de la conseillère. Fait que là, on ne sait pas exactement que pense le Parti libéral. Surtout que le Parti libéral du Québec nous avait laissé entendre la semaine dernière que l'important, c'était la clarté. On peut dire que hier, en tout cas, ils l'ont échappé d'aplomb. Donc, elle va poursuivre sa mission. C'est une femme bilingue. Regardez un peu son parcours, qui a travaillé comme journaliste, qui est impliqué dans un paquet de mouvements. Puis c'est le genre de mouvement aussi qui remet en question un paquet de trucs, comme le port des armes chez les policiers, qui remet en question la fête du Canada. Ben, on peut étirer la liste longtemps. Mais la question la plus importante, c'est un phénomène réel, le racisme. Plusieurs personnes le vivent au quotidien. Est-ce que c'est la meilleure personne pour attacher des fils, concilier les différents groupes au Canada? Moi, je ne suis pas certain. Quelqu'un qui se campe dans une position, qui ne comprend pas pourquoi il y a eu un débat puis une démarche sur la laïcité, puis on a le droit d'être contre ça, là. Mais l'histoire du Québec, avant de critiquer, tu peux, un, te renseigner un peu. Le Québec, dans les années 60, a foutu l'Église à la porte, l'institution. C'est difficile pour des Québécois de comprendre l'attachement à des symboles religieux ou culturels reliés à la religion. C'est assez difficile, pas simple. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il est de bon ton dans certains cercles et certains milieux de casser du sucre sur le dos des Québécois. On est toujours pire que les autres. Je l'ai vu durant la crise autochtone. On disait, regardez les Québécois ce qu'ils font aux Premières Nations. Se passe quoi, vous pensez, à Winnipeg, au Manitoba? C'est quoi le sort réservé aux Autochtones dans les autres provinces? Tu sais, c'est facile de focusser sur le Québec, là. Je suis pas en train de dire qu'on est meilleur que les autres. Moi, je pense qu'on n'est pas mieux, pas pire. On a notre lot de racistes qui se sont exprimés, par exemple, sur les réseaux sociaux de François Legault, qui soulignait l'anniversaire de l'attentat à la mosquée. Puis des gens, là, anonymes, pas anonymes, qui vomissent, qui dégobaient. Ben oui, il y en a. Et en soi, on ose souhaiter que c'est une minorité jappante, mais c'est clair que ça existe. Et est-ce qu'elle a un rôle qu'elle pourrait jouer pour essayer de tisser des liens? Sans doute, mais moi je pense qu'elle est brûlée. Mais M. Trudeau a l'air de vouloir aller quand même dans cette direction. Ensuite, ce matin, je veux vous parler de McKinsey. McKinsey, pourquoi? Parce que hier, on a appris là, que le gouvernement fédéral a accordé un contrat en informatique d'une durée de 81 ans jusqu'en 2100 à la firme McKinsey. Et là, tu dis, OK, mais de quoi on parle? Là, le fédéral a donné plus de 100 millions de contrats. Puis je rappelle, c'est une firme de consultants, là. Puis on nous dit, c'est pas clair, là. T'sais, c'est un contrat qui est ouvert, les montants sont pas précisés. C'est un contrat qui devrait permettre d'aller chercher des conseils, toujours dans le domaine informatique. Là, tu dis, attends un peu, là. Comment est-ce qu'on peut garantir, même si c'est pas détaillé, une entente jusqu'à la fin du siècle avec une firme de consultants qui, je le rappelle, a des pratiques douteuses, des principes élastiques puis un code d'éthique en accordéon. Toujours prêt, évidemment, à utiliser la même phrase qui est de dire « McKinsey ne décide pas, McKinsey vous conseille. » Et peut conseiller dans la crise des opioïdes, comment maximiser les ventes, comment faire en sorte qu'une compagnie d'assurance ait moins de réclamations à payer à ses clients, conseiller au passage quelques régimes où les droits humains sont secondaires, et d'être capable de jouer sur les deux fronts, organisme fédéral américain qui réglemente les médicaments et aussi des compagnies pharmaceutiques. Alors, M. Trudeau est visiblement tombé en amour avec McKinsey. Et là, tu te dis, mais finalement, pourquoi on en est là? Puis est-ce qu'on a toujours besoin de cette firme avec autant de contrats? Les contrats de McKinsey au Canada, c'est 10 % avec le gouvernement fédéral. Le reste, des entreprises, des gouvernements, puis tout ça. Et jusqu'en 2100, faut le faire. Tantôt, je vous parlais un peu de, appelons ça, l'état d'esprit du premier ministre Trudeau concernant, bon, tout le dossier du racisme. Puis on a vu le NPD se ranger là, solidement avec M. Trudeau hier aussi, là. Dans le cas de la loi C-5, on comprend l'objectif, c'est de dire il y a des groupes, minorités visibles, autochtones, surreprésentés dans les prisons. Puis la prison ne peut pas être la réponse à tout. Mettons. Hier, ce que le procureur du DPCP, M. Dinet, l'a dit, c'est que ce qui n'a pas de bon sens, c'est que les victimes d'agression sexuelle reçoivent un message que c'est pas si grave que ça, une agression, quand t'envoies quelqu'un purger une peine dans la communauté. Le juge avait le droit de donner une sentence, il n'y a pas de peine minimale. Est-ce que, comme à l'époque, pendant 15 ans, ça aurait été la prison automatique? Oui. Là, il ne l'a pas fait. Puis là, au terme d'un procès où l'agresseur nous explique que c'est à cause du mouvement MeToo, puis que finalement, une fois qu'une fille dit oui, ben c'est oui jusqu'au bout, puis que si j'ai le goût de faire n'importe quoi, j'ai le consentement de base, puis on y va par là. Alors, c'est quoi, puis il a raison le procureur Dinet, là, c'est quoi le message que le ministre de la Justice, M. Lametti, et M. Trudeau envoient? Puis on comprend là qu'il faut vider les prisons, on comprend qu'il faut que les... groupe ne soit pas surreprésenté en prison. Mais il y a toujours bien des limites. Faut-tu regarder le crime peut-être de façon objective puis dire, un instant, là, c'est une femme qui a été agressée sexuellement. Puis on l'a traînée devant la justice pendant 8 ans pour obtenir quoi? Une peine à purger dans la communauté. Puis là, je le sais que les avocats vont me dire, M. Arcan, vous savez, c'est très sévère, une peine dans la communauté, une sorte de contrainte, puis ça sera pas drôle sa vie. Come on, là. Ça demeure moins pire que d'être emprisonné dans une prison. En parlant d'agresseur, Jean Vanier, cofondateur de L'Arche, aurait agressé sexuellement 25 femmes. Jean Vanier est décédé il y a quelques années. Il y a eu des plaintes depuis sa mort et il y a eu enquête. C'est un rapport de quoi 900 pages à peu près qui a été publié. Et Jean Vanier, pour les gens qui ne le connaissent pas, a présidé cet organisme qui avait comme mission d'aider des jeunes, dans un cadre d'inspiration catholique, puis des moins jeunes, des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Tout ça pour dire, ces déficients font partie de la communauté. Puis je l'ai interviewé dans le passé, fils de l'ancien gouverneur général du Canada. Ce qu'on se rend compte, c'est que, puis il avait un peu ses allures de leader spirituel, j'allais dire de gourou, et il s'est servi un peu de ce pouvoir à la tête de l'organisme L'Arche, en France, c'est surtout là qu'a porté l'enquête, pour abuser sexuellement d'un minimum de 25 femmes. Des femmes qui étaient célibataires, des femmes qui étaient mariées, des femmes qui étaient dans différents groupes d'âge. Il y avait des religieuses là-dedans. Et on pense que la liste pourrait être plus longue. Et son mentor, le père Thomas, est encore plus tordu. Lui s'est fait foutre à la porte des Dominicains parce que sa sœur, qui était religieuse, lui amenait d'autres religieuses pour combler ses besoins sexuels. Et elle-même, la sœur et le frère, ont développé une relation incestueuse. Ça, c'est su. Il a été foutu à la porte. Puis c'est le père, c'est Jean Vanier, pardon, qui a pris la direction. Fait que comprendrez que des organismes comme ça, avec des êtres qui vous apparaissent toujours comme étant au-dessus de tout soupçon, là, ça s'écroule. On nous dit que on pense pas que les victimes aient été des personnes déficientes, mais qu'il y en aurait évidemment un bon nombre. Rapidement, on va faire le tour de d'autres nouvelles. On va revenir sur ce document, un mémoire qui doit être rendu public par Hydro-Québec aujourd'hui concernant la demande en électricité à venir. C'est Thomas Gerbet de Radio-Canada qui a obtenu le document. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est clair qu'il y a des entreprises énergivores qui veulent profiter du Québec puis des tarifs bas. Et on estime que la demande actuelle, les entreprises puis les besoins du Québec, nos autos électriques, nos véhicules, bon, ça prendrait 13 barrages de la dimension de la Romaine. On sait bien que ça n'arrivera pas. C'est une image coup de poing pour vous montrer à quel point il y a une demande forte. Et là, on voit M. Legault qui dit ben, des entreprises qui auraient une faible empreinte de carbone, on pourrait peut-être leur vendre plus d'électricité qu'à d'autres. Mais là, Hydro-Québec dit, puis là, on comprend le fond aussi du litige entre Mme Brochu et le ministre Fitzgibbon. Puis le ministre dit, puis il va réagir aujourd'hui, ben moi, je veux développer, mais on va être responsable. Mais en même temps, là, ça passe par là, le développement économique du Québec. Alors, jusqu'où on va? À quel point on donne ou on baisse les tarifs d'électricité pour des entreprises? Puis comment on associe des joueurs qui sont pas juste des bouffeux d'électricité et qui créent finalement peu d'emplois? On aura l'occasion d'en reparler ce matin. Là, je vous le disais, la grande tendance, la mode, ce sont les tableaux de bord au gouvernement du Québec. C'est Christian Dubé qui a lancé ça. Et là, il est en train de le bonifier. On va savoir le vrai temps d'attente. Autrement dit, quand vous allez partir de chez vous pour aller à l'urgence, ben on va vous dire, voici le temps d'attente avant de voir un médecin si vous êtes dans telle catégorie. C'est pas disponible maintenant, mais ça devrait l'être bientôt, dit le ministre. En éducation, mon ami Bernard nous promet un tableau de bord. Lui, est arrivé là. Puis là, c'est un couteau à deux tranchants. Parce qu'on serait porté à dire... c'est facile, là. J'ai pas les outils. Vous comprendrez, je peux pas décider grand-chose. J'ai pas l'information. Puis là, tu dis, OK, mais Robert, j'ai fait quoi pendant toutes ces années? Là, la CAQ, là, c'est pas le premier mandat. Là, on est à 5 ans, là, pratiquement. Puis arrive quoi? Puis qu'est-ce que j'avais fait? Puis là, vous commencez à vous équiper de tableaux de bord. Là, maintenant, ce sont les données pour les CPE. 30 quelques 1000 enfants qui attendent une place. Je vais parler avec la ministre de la Famille tantôt. Je comprends d'avoir le portrait, mais il ne faudrait pas que ça devienne comme une espèce d'excuse pour reporter dans le temps les lenteurs des différents ministères. Aussi, ce matin, dans le Globe and Mail, il y a Ottawa, ça c'est le ministre François-Philippe Champagne, qui veut que la méga transaction Rogers-Shaw-Québécois, il y ait des garanties qui soient données pour une baisse des tarifs de télécom. Là, c'est pas rien, là, c'est Rogers-Shaw, là, c'est on fusionne, ça coûte 20 milliards. Puis Québécois ramasse un des éléments du casse-tête. Et on sait qu'il y a eu des enjeux avec le Bureau de la concurrence. Puis M. Péladeau a dit, ben c'est important pour nous le développement de Vidéotron. Mais le ministre a dit, ça me prend des garanties, puis pas des demi-mesures, là. Puis là, on se demande jusqu'à quel point il va être capable d'arracher des engagements avec... des conséquences, parce que des promesses, c'est beau, mais ça prend aussi des engagements. Alors, pour l'instant, c'est sur la glace. Il se donne encore 2 semaines pour voir si la transaction peut être finalisée. Rapidement, dans l'affaire des policiers de Memphis, il semble que entre ce que les policiers ont donné comme rapport après l'événement puis les images, il y a tout un monde. Et on pouvait l'anticiper, là. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions. On décrit un suspect, mais c'est pas lui qu'on voit, ce ne sont pas les gestes qu'il pose qu'on retrouve dans le rapport. Il y a également d'autres policiers qui font l'objet d'une enquête qui sont également suspendus. Peut-être la bonne nouvelle, c'est le Fonds monétaire international qui lance ses projections économiques pour la planète en disant il faut continuer à se battre contre l'inflation, mais on pense que 2023 pourrait être une année de croissance économique plus vite qu'on pense, et aussi 2024, ce qui fait que la récession anticipée pourrait être moins douloureuse. Également, du côté de l'Ukraine, on sait que il y a tout un débat sur les armes. On pense à des avions de combat qui sont demandés par le président Zelensky. Joe Biden a dit « Oubliez ça, ça n'arrivera jamais ». Le président Macron a laissé quand même la porte ouverte concernant cette possibilité.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Dossier des garderies, on va faire le point ce matin sur ce qu'on appelle la liste d'attente, les parents qui cherchent une place, Québec qui nous offre maintenant un tableau de bord, on le voit en santé, le ministre de l'Éducation en veut un, hein? Et la ministre de la Famille, Suzanne Roy, qui est avec nous, a le sien aussi. Madame Roy, bonjour.
Bonjour.
Bon, première question, ce tableau de bord, c'est intéressant parce que ça donne de l'information, mais en même temps, ça peut pas être une réponse ou un outil pour excuser des choses.
Ah, surtout pas.
Parce que ça fait 5 ans que la CAQ est au pouvoir, puis là, on se dit, OK, là, mais pourquoi ça a pris autant de temps pour arriver à ça?
Ben, d'abord, il y a eu la mise en place du grand chantier, donc avec des grands objectifs. Puis justement, quand on a un chantier de cette ampleur-là, 36 000 places à combler au niveau des du service de garde, la conversion de 55 000 places, faut pas attendre à l'objectif dans 4 ans ou dans 5 ans. Je pense que c'est important de suivre au fur et à mesure et d'avoir des vrais chiffres, savoir exactement quelles sont les places qui sont créées, pouvoir suivre. Je pense que c'est une question de transparence. Alors, le tableau de bord va nous permettre de voir où on va, mais ça ne créera pas de place, ça ne règle pas les problèmes et ça sera surtout pas une excuse pour ne pas réussir les objectifs. Au contraire.
OK. Il y a combien d'enfants qui sont en attente d'une place?
33 000.
Là, il n'y a pas de doublon dans ça, à votre connaissance. C'est vraiment 33 000 enfants réels.
C'est 33 000 enfants, c'est beaucoup trop d'enfants, de familles qui attendent une place. De là, l'importance de pouvoir suivre, l'importance de créer des places et de travailler rapidement à la mise en place pour les parents de places de garde réelles.
Est-ce que comme parent, si mon enfant, ou si j'attends une place pour mon enfant, en allant voir votre tableau de bord, je vais savoir quand je vais obtenir une?
Pas dans le tableau de bord. Alors, vous allez le voir dans la liste d'attente parce qu'on est en train de faire une véritable liste d'attente où le parent va pouvoir aller voir exactement où il se situe au niveau de chaque CPE où il s'est inscrit, à quel moment il pense qu'il pourra avoir une place. Alors, ça pour
Mais là,
lui,
ça, c'est pas disponible, ça.
Actuellement, non, c'est pas disponible. Il y a la place 05 qui est un bassin, si on veut. Mais nous, ce qu'on veut mettre, c'est vraiment une place où le parent va pouvoir suivre au fur et à mesure. Alors, c'était prévu dans un délai de 2 ans, ce qui, à mon sens, était trop long. Donc, actuellement, nous sommes à travailler là-dessus. J'espère que d'ici 18 mois, tout va être en place et que les parents vont pouvoir avoir leur juste, de façon très, très transparente, au fur et à mesure où ils vont bouger dans les listes d'attente. Justement.
Les places que vous cherchez le plus, ce sont des places, pourquoi des... J'allais dire des bébés de 2 ans à peu près, là, 2 ans, 2 ans
et demi. Poupons.
Les poupons,
c'est vraiment la grosse demande au niveau des poupons. Alors, ça se fait bien sûr au niveau de la création des nouveaux centres de la petite enfance, des nouvelles garderies subventionnées. Et pour aller aussi plus rapidement, pour donner accès aux parents, on va convertir des garderies non subventionnées en garderies subventionnées. Ça va pas donner nécessairement de nouvelles places à ceux qui sont occupés actuellement, mais on a déjà dans les garderies, par exemple, non subventionnées, à peu près 20% des places qui sont pas comblées parce que c'est trop dispendieux. Et ça, quand on les convertit, c'est des places instantanées qui sont offertes à des familles et qui sont subventionnées. Alors ça, c'est extrêmement intéressant.
OK, mais allez pas trop vite, là. Ce que vous me dites, c'est qu'il y a 20 000 places disponibles dans des garderies privées, mais les parents peuvent pas les prendre parce que ça coûte trop cher. Puis vous allez les convertir en combien de temps?
On les convertit dans les 5 prochaines années, on va en convertir 55 000. Donc, ça va être extrêmement rapide parce que c'est un processus qui prend à peu près 4 mois à mettre en place. Donc, c'est des places plus facilement accessibles.
OK, mais moi, je suis un parent puis je vous écoute ce matin, là. OK? Puis mettons même, je suis enceinte de 8 mois et demi. Puis là, je me dis à quel moment je vais avoir une place dans un CPE. réponse?
Ben, d'abord, il faut s'inscrire sur la liste et puis...
Ça prend combien de temps?
Ben, ça va dépendre des régions. Il y a des régions, c'est inégal d'une région à l'autre. D'ailleurs, dans le tableau de bord, on a ce qui est publié ce matin, on a dans chaque région combien de places sont disponibles et combien on a de manque de places, combien de gens sont sur la liste d'attente.
Les pires régions au Québec?
Je dirais en termes de chiffre absolu, c'est la deuxième plus grosse région au Québec qui est la Montérégie, la région dont je suis responsable. Alors, c'est 6000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Donc, c'est extrêmement important. Alors, de là, l'importance de pouvoir suivre, mais surtout de mettre en place les CPE, parce que le tableau de bord, c'est un indicateur, mais ça crée pas des places. Alors, ce qu'il faut faire, c'est travailler plus rapidement à la construction des CPE. Alors, là aussi, il y a des grands défis et à la conversion.
Je vais vous dire franchement, quand j'ai regardé le tableau de bord ce matin, je me suis dit c'est le tableau de bord pour faire plaisir à la machine pas à la ministre, parce que le nombre d'enfants en attente, c'est à peu près la plus petite case sur le tableau. Moi, comme parent, je regarde ça, là. OK, place subventionnée créée dans le dernier mois, ça me donne pas une place. L'avancement du grand chantier, ça me donne pas une place. La couverture de l'offre des places en service de garde en déficit moyen, en surplus très faible... Ça me donne pas de place. C'est pas un tableau pour le peuple, ça.
En fait, c'est pas un tableau pour faire plaisir à la ministre ni à la machine. Je pense que c'est un tableau pour voir l'évolution des choses.
Ouais, mais comme parent, ça change rien dans ma vie.
Mais comme parent, oui. Comme parent, on voit qu'il y a eu plus de 5000 places depuis depuis le grand chantier.
Mais Mme Roy, ce que j'essaie de vous dire, tous les ministres de la famille à qui j'ai parlé, ils m'annoncent tous des milliers de places créées, puis à chaque fois, ils finissent toujours par en manquer. Moi, je vous le dis très honnêtement, ce matin, le taux de réalisation du réseau, 90%, c'est extraordinaire. C'est un tableau, pas pour les parents. C'est pas un outil de travail pour mieux comprendre ce qui arrive quand je me cherche une place pour mon enfant.
C'est un outil pour savoir comment avancent les travaux et ce qui va servir aux parents, à ceux qui sont justement sur cette liste d'attente, c'est de pouvoir savoir exactement où ils se situent dans la liste d'attente et dans chacun des CPE où ils sont inscrits.
C'est pas sur ce tableau.
C'est
à venir dans quelques mois.
Dans quelques mois, tout à fait. Mais un empêche pas l'autre. Je pense que c'est important. On a des grands objectifs. Faut pouvoir suivre. Faut être capable d'être transparent puis de voir comment les choses évoluent. Et oui, ça dit aux parents qu'il y en a eu 5000 places. Dans les 20 dernières années, M. Arcan, là, il n'y en a pas eu des créations de places comme ça. C'est une moyenne de 2000, 3000 par année. Et dans les 12 derniers mois, c'est 5000 places qui ont été offertes aux parents. On n'a pas encore atteint l'objectif. On se dit que d'ici 4 ans, on va réussir à l'atteindre. On va mettre les énergies pour l'atteindre. Mais je pense que c'est important de voir l'évolution. Il y a le tableau de bord qui est un outil transparent et il y a la liste d'attente qui est autre chose et qui, là, va répondre à un besoin spécifique.
Je vais vous dire ce que je pense dans le fin fond, là. C'est que le gouvernement se donne des tableaux de bord et l'objectif, c'est pas de me tenir au courant, là, c'est de montrer aux électeurs, voyez, on fait quelque chose. Ça veut pas dire que ça me donne un résultat. Ça veut pas dire que ça me donne une place. Je parlais avec votre collègue Bernard Drainville la semaine dernière. À l'écouter parler, Jean-François Robert, j'ai pas fait grand-chose. Il arrive là, il sait pas combien il y a d'employés, il sait pas quels sont les résultats, il a besoin d'informations. Monsieur Lacombe a fait quoi pendant toutes ces années-là à la famille?
Ben, il a mis en place le grand chantier. C'est ce qui permet aujourd'hui d'atteindre des objectifs comme ceux-là, de dire qu'il y a 7000 nouvelles places aujourd'hui, dans la dernière année, où il y a des enfants qui ont obtenu cette place-là, ce qui est un record. Et on va continuer de le faire. C'est important. Le tableau de bord, c'est un indicateur. D'un indicateur, on dit qu'on va être jugé sur les résultats de l'avancement des résultats. Mais... c'est les résultats qu'il faut donner.
Je comprends, mais vous allez être jugé sur le nombre d'enfants en attente, comme le ministre de la Santé est jugé sur le temps d'attente dans les urgences.
Tout à fait.
C'est ça la réalité.
Et j'ai hâte de voir dans le tableau de bord la diminution justement du nombre d'enfants en attente, parce qu'on aura mis en place les grands objectifs du chantier, c'est-à-dire la création de 37 000 nouvelles places. Il y en a déjà 5 000 sur 35 000 de créés qui sont actuellement occupés par des enfants. Et même chose quand on va mettre en place la conversion, ce qui va être encore plus rapide.
Cette année, là, on est en janvier. Si je me rends en décembre, il y a combien de places de plus dans le réseau?
En janvier, à la fin...
Non, mais de janvier à décembre de cette année. Vous ajoutez combien de places dans le réseau?
Il devrait y avoir à peu près 14 000 places qui devraient s'ajouter
cette année seulement?
Oui, tout à fait. Dans l'année qui s'en vient, dans l'année qui se termine au 31 mars, parce que nous, notre année, c'est le 31 mars, on devrait être autour de 5300 dans les derniers 12 mois.
OK. Ça veut dire, là, si je suis votre logique, là, que votre liste d'attente va finir par descendre de moitié.
Oui, et plus, je l'espère. Mais il y aura toujours
une liste d'attente. Si je vous réinvite à la fin de l'année, on va être à quoi? Si vous me dites que c'est 14 000 cette année, il y en a 33, il va en rester 20 000?
Il devrait en rester autour d'une vingtaine de mille. Évidemment, il y a des enfants qui s'ajoutent, il y a des naissances toujours qui s'ajoutent.
Mais il y en a qui partent aussi, qui vont à l'école.
Tout à fait. Donc, il devrait avoir une baisse substantielle au niveau de la liste d'attente. Et c'est notre objectif. On le sait, là, les parents sont satisfaits quand ils sont rentrés dans les services de garde. Mais réussir à entrer dans les services de garde, c'est aussi tout un chemin.
OK. Dernière question.
Oui.
Ma nature étant marquée par la méfiance.
Oui, j'ai senti votre enthousiasme sur les tableaux de bord.
Non, mais c'est parce que je trouve que ça... Je vous l'ai dit comme je le pense. Je trouve que c'est fait pour donner bonne gueule au ministère. À la Ville de Montréal, quand on fait le décompte des logements sociaux, on en invente. Alors, des logements qui sont pas construits, des logements qui seront même pas un jour construits pour nous dire, regardez, puis des logements déjà existants qu'on a convertis, puis ça fait 12 000 logements de plus. Sur les 14 000 dont vous me parlez, là, est-ce que ce sont 14 000 places où vous avez réglé le dossier? Il y a un échéancier, vous êtes capable de dire, ça va se passer dans telle région du Québec, dans telle CPE, dans telle garderie privée. Là, c'est pas des places que vous prenez dans l'air. Là.
Ce que vous avez au tableau de bord, ce sont des enfants qui sont dans un service de garde.
Oui,
c'est pas
mais
promis.
Les places à venir, je parle.
Oui, les places à venir, ça va être la même chose que vous allez avoir. Ça va toujours être les enfants qui ont réussi à obtenir
une place. C'est pas une comptabilité créative.
Pas du tout, même au contraire. Puis cet outil-là de tableau de bord, ben, ça va nous permettre justement d'arrêter cette comptabilité créative qui a été faite pendant des années. Alors, on parle pas de place fantôme, de place projetée.
Attendez, on a-tu fait ça, nous autres, au Québec, de la comptabilité créative puis des places fantômes en garderie?
Ben, mon confrère, quand il a pris le ministère, il s'est aperçu qu'effectivement, on avait des chiffres de places qui étaient projetées. Alors, c'est difficile, là, quand on a juste les places projetées.
Qui n'ont jamais existé.
Puis qui n'ont pas existé ou qui vont exister dans quelques années.
Ça, il n'y en a pas actuellement dans votre liste.
Il n'y en a pas dans votre tableau de bord. Ce sont les enfants qui ont obtenu des places.
Je vais vous réinviter à la fin de l'année, vous.
Ça va me faire grand plaisir d'y être.
Madame Roy, merci d'être venue ce matin.
Ben, merci beaucoup.
Suzanne Roy est ministre de la Famille. Maintenant, on revient sur la saga de la nomination d'Amira El Gawabi comme conseillère pour lutter contre le racisme, l'islamophobie. Monsieur Trudeau a été très clair hier. Il a dit, pas question de remettre en question donc cette nomination. Et même si j'avais été au courant des propos, ça n'aurait rien changé au fond. Première chose. Le NPD est d'accord avec Monsieur Trudeau là-dessus en disant que c'est extraordinaire. Au Canada anglais, ce matin, faites le tour rapide, là. Il y a comme une chorale qui se fait entendre en disant c'est merveilleux, c'est une femme compétente, elle parle les deux langues, elle va faire beaucoup et elle a une feuille de route impressionnante. Au Québec, on n'est pas là du tout. Au Québec, hier, le gouvernement était très clair. On veut que Monsieur Trudeau annule cette nomination. On a vu le Bloc québécois aussi dire on veut la rencontrer pour savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle a comme valeur. Et tout ça tourne autour des propos qu'elle a tenus, mais la liste est longue, là. Mais notamment en disant que les Québécois, et c'était tout le débat sur la laïcité, ben que les Québécois étaient pas mal islamophobes et qu'ils en faisaient, en fait, comme si c'était pire au Québec qu'ailleurs. Et d'ailleurs, dans l'entrevue au Globe and Mail ce matin, elle dit « Écoutez, moi, je me suis pas prononcé, je cite un sondage léger. » On a fait venir le sondage léger. Il y a des différences, évidemment, au Canada, mais de l'intolérance face à des signes religieux, face aux musulmans, face aux juifs, kippa, ça existe partout au Canada. Puis il est de bon ton aussi de fesser sur le Québec un peu pour essayer de se donner une belle image en disant, nous, vous savez, à Winnipeg, on est bien différents, puis on n'est pas aussi intolérants que les Québécois. Là, on essaie de suivre le Parti libéral du Québec dans toute cette histoire-là. Tôt hier matin, la députée qui est responsable du dossier, Jennifer McCarron, a dit que la position de Québec était absolument inacceptable et que la nomination de Mme El Gawabi devait suivre son cours. Son chef a dit pas mal le contraire, puis finalement, le tweet a disparu. Marc Tanguay, le chef intérimaire du Parti libéral, est avec nous. Monsieur Tanguay, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Vous avez dit la semaine dernière, la clarté dans le message, c'est ça qui est important. Alors, clairement, c'est quoi la position de votre parti sur le dossier de Mme El Gawabi?
Clairement, c'est la position que j'ai exprimée dans ma communication hier après-midi, à savoir que Mme El Gawabi, elle doit s'excuser pour ses propos inacceptables et insultants, puis qu'à défaut, ben, elle ne pourra pas rester en poste, clairement.
OK. S'excuser pour vous, ça veut dire quoi? M. Trudeau dit qu'il est satisfait de ses excuses, lui.
point, ben, nous, on n'est pas satisfaits, là. S'excuser, là, M. Arcand, c'est pas dire, oh, j'ai été mal compris, puis dans le fond, c'était une analyse. Non, non. S'excuser, c'est reconnaître que c'est faux de dire que les Québécois sont mus par un sentiment anti-musulman de façon majoritaire ou qui sont intolérants. C'est factuellement faux. C'est une insulte et elle doit le dire très clairement en s'excusant, en retirant ses propos. Et encore une fois, elle ne peut pas agir comme conseillère spéciale de la lutte contre l'islamophobie si elle part avec une telle conception, là.
OK. Si elle ne s'excuse pas, elle doit quitter, selon vous?
Oui. Elle ne peut pas. Nous, on en fait une condition sine qua non. Elle ne peut pas remplir cette importante fonction-là de lutte contre l'islamophobie en partant avec une prémisse qui dit que les Québécois sont anti-musulmans ou intolérants. C'est incompatible. Et c'est pour nous, c'est une condition sine qua non.
OK, mais si M. Trudeau dit « Moi, je la garde là, c'est mon choix, puis je pense qu'il y a la meilleure personne. »
Ben, si la garde là, M. Arcand, sans qu'elle y ait eu d'excuses, encore une fois, claires et sincères, ben, ça va teinter malheureusement l'ensemble de son travail. Quel sera, son travail sera toujours jugé en disant, bon, ben, est-ce que son approche, sa conception, ses conclusions, mettent en pratique sa conception que les Québécois sont anti-musulmans, ça va teinter de façon négative l'ensemble de son travail. Elle pourra pas remplir ses fonctions.
OK, mais est-ce que vous avez donné, ou en fait, est-ce que vous donnez un certain nombre, un délai, en fait, là, pour qu'elle puisse présenter ses excuses? Vous lui donnez combien de temps?
Écoutez, j'ai pas de délai à lui donner. Là, c'est pas comme une mise en demeure, un 10 jours de mise en demeure.
Non, mais ça peut pas traîner dans le décor pendant des semaines, là.
Tout à fait d'accord avec vous. Monsieur Arcand, ça a déjà trop traîné. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Là, je vous dis, plus le temps passe, là, moins ses chances là demeurent de pouvoir rester en poste. Et, je veux dire, là, la controverse est très claire. Ce qui est reproché est très, très clairement identifié. Plus le temps passe, là, moins les chances de rester demeurent, là.
Est-ce que tous les membres de votre caucus sont à la même place?
Oui, tout à fait.
Incluant Mme McCarron?
Oui, tout à fait. Puis encore une fois, M. Arcand, là, c'est moi le chef intérimaire, là. C'est une erreur d'équipe. Jennifer s'est excusée hier en soirée. Mais moi, c'est moi qui en réponds ce matin. C'est une erreur d'équipe. On n'avait pas eu le temps de compléter à l'interne les consultations. D'où le tweet de Jennifer. Okay, et la position, c'est celle que j'ai exprimée.
Je veux juste comprendre. Je sais bien que c'est vous le chef, là. Mais ça veut dire, ce qu'elle a dit hier matin, hier soir, elle ne le pensait plus.
Écoutez, elle le dit dans son tweet là d'excuses que il est vrai que les propos tenus par Mme El-Gawabi, là, c'était des propos indignes et que c'était une erreur pour elle là, d'avoir tout dit cela. Mais encore une fois,
mais c'est moi, la critique de votre parti. Je comprends, mais c'est la critique de votre parti dans ce dossier-là. Là. C'est pas quelqu'un qui est en charge d'un autre dossier.
Oui, mais encore une fois, M. Arcand, dans des dossiers où les choses vont vite, des dossiers excessivement délicats, chaque mot est important et la position doit être claire. Et c'est celle que j'ai exprimée moi hier en début d'après-midi.
OK. S'il y a une motion à l'Assemblée nationale pour dénoncer cette nomination, demander qu'elle soit mutée ailleurs, là, allez-vous soutenir la motion?
À défaut d'excuses sincères, oui.
Parfait. Merci, M. Tanguay.
Merci, M. Arcand. Au plaisir.
On voit Marc Tanguay, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, je sais beaucoup de courriels, de questions d'automobilistes, d'auditeurs au sujet de l'annonce de la Société d'assurance automobile du Québec. D'abord, ils ont présenté un nouveau portail, mais la conséquence, c'est qu'il y a des transactions qui ne seront pas possibles et qu'il va falloir attendre après le 20 février pour les faire. On nous dit que les transactions les plus importantes sont gardées. Gino Desrosiers est de la Société de l'assurance automobile du Québec. Monsieur Desrosiers, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Je vais y aller très simplement parce que ce sont les questions qui viennent, là. Quels sont les services qui ne sont pas disponibles, mais pas du tout, là, pour quelqu'un qui a besoin de faire affaire avec vous d'ici le 20 février?
Ben, je dirais que l'ensemble des services ont été suspendus parce que les systèmes sont fermés. Ce qu'on maintient dans les centres de services, c'est les examens pratiques, le remplacement d'un permis de conduire perdu au volet. On fait l'admissibilité pour l'échange de permis étrangers, la vérification de la conformité d'un véhicule routier. Il y a aussi tous les gens qui ont des paiements de renouvellement à faire, d'immatriculation de permis de conduire. ils peuvent continuer à le faire, mais pas dans nos succursales. On leur demande de se présenter à leur institution financière ou d'utiliser les services en ligne de l'institution financière. Pour les autres cas, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a tous les gens, on dirait ce qui était prévisible, on a envoyé des avis de renouvellement à l'avance, on a devancé des rendez-vous pour certains services, et pour les autres, on est en train, quand il y a des cas d'exception, parce qu'on était conscient là, que pendant quelques temps, on allait demander la collaboration de tous les clients. S'il y a des cas d'exception, il y a des analyses de fait pour voir comment on peut là, amenuiser les impacts négatifs pour trouver des solutions aux gens qui ont des cas là, qui pourraient, mettons, avoir besoin d'un service en raison de leur emploi. Là.
OK, je vous donne un exemple. Là. Quelqu'un qui me dit qu'il doit renouveler son permis de conduire avant le 12 ou le 15 février. Ça, c'est suspendu, vous me direz, peut-être dernière minute, mais ça a un impact parce que on doit faire une autre démarche pour le renouvellement de la carte de la RAMQ dans un CLSC. Il n'y a rien à faire pour ces gens-là. Si je dois renouveler mon permis avant le 20 février, je ne peux pas le faire, là?
Ben, c'est des gens qui avaient une prise de photo à faire. Ces gens-là avaient sûrement eu un rendez-vous ou ont contacté pour devancer leur rendez-vous pour la prise de photo. Si c'est pour le paiement seulement, c'est possible de le faire, mais
attendez là, vous allez un peu vite, je veux comprendre. Là. Quelqu'un qui aujourd'hui a besoin d'une prise de photo, puis son permis est à échéance, mettons, le 15 février, il ne peut pas le faire.
Maintenant, nous, présentement, on ne fait pas de prise de photo. Mais cette personne-là, si elle a besoin de son permis de conduire, par exemple, pour son travail, peut se présenter en centre de service. On va voir peut-être lui émettre un permis provisoire pour lui permettre de pouvoir avoir un permis valide pour continuer à travailler. On va lui donner un rendez-vous par la suite pour une prise de photo.
OK, bien, mettons que c'est pas une question de travail, c'est une question, mon permis vient à échéance. Là. Est-ce que je peux aller dans un centre et dire, écoutez, pouvez-vous me le prolonger jusqu'au 20?
Bien là, moi, personnellement, je ferais pas là, d'analyse du cas par cas parce qu'il y a différents facteurs à prendre en considération. Mais les gens dans nos équipes sont formés pour ça et vont analyser si c'est possible ou pas d'aider le client.
OK, donne un autre exemple maintenant. Il y a des gens qui partent vers la Floride, par exemple, et qui obtiennent chaque année une dérogation pour leur véhicule, pour avoir les fameux pneus 4 saisons. Ça aussi, c'est pas possible?
C'est effectivement, ce service-là n'est pas disponible.
OK. Je fais quoi? Comme si j'ai déjà mon emplacement de réservé, je pars avec mon VR, puis normalement, j'ai mes pneus d'été, qu'est-ce qui se passe?
Mais comme je vous dis, il faut que les gens... nous contacte soit les services à la clientèle ou les préposés dans les centres de services pour analyser la situation au cas par cas. On traite vraiment des cas exceptionnels, tout dépendant des besoins, des facteurs, ça va être pris en considération.
OK, mais M. Desrosiers, moi, je veux pas engorger vos circuits téléphoniques. Là. Mais la question, elle s'applique à bien du monde, puis elle est relativement simple. Ben, quelqu'un qui va aux États-Unis, en Floride, qui a un VR, qui a ses véhicules, ses pneus d'été, est-ce qu'il y a un problème potentiel ou s'il y a moyen de faire un arrangement? Est-ce que vous lui dites « reste chez vous » C'est quoi l'histoire?
Ben, c'est ce que je vous dis, il y a moyen de faire un arrangement, mais pour ça, il faut que le cas soit analysé. Ce matin, je pourrais pas faire du cas par cas avec vous. On n'a pas l'ensemble de l'information. Puis c'est vraiment les gens au service à la clientèle qui vont être en mesure de répondre à chacun des cas qui vont nous être soumis.
OK, l'autre question. Il y a des comptoirs de service. Les comptoirs sont ouverts, là. Je ne vais pas me frapper sur des portes closes.
Les comptoirs sont ouverts parce qu'entre autres, il y a des services d'affaires dans les centres de service. Puis les gens sont aussi là pour répondre aux questions des gens, pour les informer. Si la personne a un cas d'exception, ben c'est là qu'on va prendre en considération les éléments pour voir comment on peut amenuiser les impacts sur cette personne-là. Si c'est pas un cas urgent qu'on est capable de lui donner un rendez-vous plus tard, en février, on va voir avec la personne comment on peut l'aider. Donc, c'est pour ça que les centres de services sont ouverts, comme notre service téléphonique est ouvert.
OK. Autre exemple, les transactions. Là, je vends mon auto à quelqu'un. Est-ce que si je me présente avec cette personne-là au comptoir, on peut faire la transaction?
Non, le transfert entre particuliers est vraiment suspendu.
OK. Je ne peux pas vendre mon char jusqu'au 20 février, c'est ça?
C'est ça, ouais, c'est pas possible. Vous pourriez le vendre à un concessionnaire, mais vous pourriez pas le vendre en particulier. Ce que j'allais mentionner, c'est qu'à partir du 20 février, avec la nouvelle Avec la nouvelle plateforme, les gens vont pouvoir faire du transfert en particulier à la maison sans se présenter. Ça va tout se faire en ligne. Mais on avait besoin de quelques semaines pour faire le transfert. C'est quand même là 10 milliards de données qu'il faut convertir d'un système à l'autre avec nos vieux systèmes qui datent des années 80.
J'allais vous dire, là, je comprends là, qu'il faut convertir, là, puis je comprends que ça prend du temps, là, mais on imagine mal une entreprise privée réduire ses services. Une banque là, qui m'annoncerait que je peux pas faire d'emprunt, que je peux pas faire de dépôt de certificat garanti parce qu'il change le système informatique, je dirais, c'est pas une banque bien forte. Vous, c'est un monopole, j'ai pas le choix, je suis obligé de dire, ben là, j'ai mon auto à vendre, j'ai un acheteur, mais là, je vais attendre parce que je peux pas faire la transaction.
Je vous dirais que c'est pas une décision qui a été prise de gaieté de cœur. Les situations ont été analysées. Est-ce que c'était possible d'avoir des systèmes en parallèle, des raccourcis quelconques? Mais comme je vous dis, compte tenu de la vétusté de nos vieux systèmes, c'était impossible de faire une transition ordonnée si on avait essayé de développer un système parallèle à côté. Mais on est conscient que c'est pas une situation idéale pour la clientèle, puis on essaie de faire ce qu'on peut pour minimiser les impacts négatifs.
La grande question, est-ce que le système sera efficace, opérationnel le 20 février?
Ben, tous les tests qu'on a faits en prévision de ça, les tests répondent bien, donc on est confiant que tout va être fonctionnel. Et à compter du 20 février, les gens vont pouvoir se créer un dossier client dans lequel ils vont accéder à toute leur information. Ils vont pouvoir transiger avec la SARAC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, assis dans leur fauteuil, dans leur salon.
OK. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont incapables de prendre des rendez-vous d'ici le 20 février pour un examen pratique.
Ça, oui, parce que ça veut dire que toutes les plages horaires des examens pratiques ont été attribuées. Et à partir du 20 février, les prochaines plages vont être disponibles. Parce que les plages horaires sont toujours attribuées à peu près un mois à 6 semaines avant l'ouverture de cette plage horaire-là. Là, on ouvre les grilles pour les examens pratiques théoriques. Donc, c'est le même processus, sauf que là, il n'y a pas de place parce que toutes les places ont été attribuées.
J'allais vous faire une farce. Ça vous tente-tu de l'entendre?
Non, je peux l'entendre.
Vous pensez appeler la firme McKenzie pour savoir comment gérer votre affaire? Ça a l'air qu'il coûte une couple de millions. Vous pouvez faire un contrat jusqu'en 2100, puis ça va peut-être fonctionner correct.
Vous auriez sûrement eu d'autres questions pour nous. Hein.
Bonne journée, M. Desrosiers.
Merci, bonjour.
Au revoir. Gino Desrosiers est coordonnateur des relations médias donc à la Société d'assurance automobile du Québec.
Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Notre invité ce matin, c'est dur de mettre une étiquette, là. C'est comme une espèce de comment dirais-je, un centre commercial en soi d'art, de culture et de performance. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que c'est dur de vous mettre pas une étiquette, parce que de toute façon, c'est pas agréable, mais bon, comédien, humoriste, ouais. Vous faites de la radio.
Je fais tout. En fait, je fais tout. Peut-être que je fais rien en même temps. Mais non, j'essaie de... je vais là où on m'appelle. C'est un peu ça. Je pense que c'est le syndrome de l'enfant qui a été un peu intimidé à l'école. Fait qu'il est en perpétuelle recherche d'amour. Mais ouais, c'est un peu ça. Il n'y a pas de ligne directrice dans ma vie, là. J'ai la ligne directrice de certaines librairies que tu dis s'il y a des livres, ouais, mais il y a en même temps un crockpot, puis en même temps des parapluies, puis des bonbons. Fait qu'en tout cas, je ressemble à peut-être ces librairies-là en ce moment.
Mais votre entrée, c'était par le biais du théâtre, ça, devenir acteur, comédien.
Ouais. Puis ça a été un franc échec parce que.
Mais pas tant que ça, vous avez joué quand même dans pas mal de choses.
Oui. Non, mais au théâtre, en fait, le but, c'était de jouer du grand théâtre au TNM, tu sais, Shakespeare, les grandes tragédies. Puis c'est pas arrivé parce que, ben, je pense que, en toute honnêteté, j'étais pas le meilleur, pour vrai, en toute sincérité. Puis l'humour est vraiment arrivé par la porte d'à côté un peu parce que j'écrivais des monologues qui se voulaient au début tragiques, puis c'était vraiment mauvais, fait que j'ai commencé à faire du comique, puis là je sentais qu'il se passait quelque chose quand je faisais des trucs comiques. Mais déjà au conservatoire de théâtre, quand je faisais j'étais toujours plus à l'aise dans la comédie que dans le drame, naturellement. Puis il y avait une créativité qui apparaissait, l'idée de chercher des blagues à travers des textes et tout ça, c'est quelque chose qui me stimulait beaucoup. Puis l'humour, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, bon, mais j'aimerais peut-être ça peaufiner cette technique-là parce que je considère que c'est un art, l'humour. Puis j'ai voulu donc poursuivre ça. Puis j'ai été apprendre à l'école de l'humour pendant 2 ans. Puis après ça, ben tout est arrivé avec Like Moi et compagnie. Puis tout
a déboulé. Mais là, ça a déboulé, là, exactement, ah, oui, là, oui. Les rôles. Mais pas juste des rôles drôles, des rôles aussi sérieux que vous avez
ouais.
joué.
Ouais, j'ai joué dans un film, Les Barbares de la Malbaie.
Ouais.
Ouais, c'est un film pas drôle, mais en fait, la promo était drôle parce que la promo l'annonçait comme une comédie un peu anti Slapshot puis Les Boys, on dirait. Puis là, tu regardes le film, puis c'est des longs paysages d'Ontario tristes, là. Puis tu sais, je veux dire, personne va regarder Thunder Bay pour se remonter le moral dans la vie. Fait que là, les gens, il y avait peut-être eu une confusion des genres. Puis quand il fallait faire la promo dans les arénas de la Ligue junior majeure du Québec, ça aussi, je trouvais ça spécial de parler à du monde qui... J'étais comme, oh, je pense qu'ils vont... Ça va être spécial, le clash entre ce qu'ils pensent du film puis ce qu'ils vont voir. Mais oui, ça a été une expérience vraiment intéressante parce que, en fait, j'ai réalisé à quel point la comédie puis le drame, c'est vraiment proche, finalement. C'est que la comédie, c'est juste... Tu sais, je trouve que c'est un drame, mais qu'on a juste une distance, alors que le drame, on est direct dedans. Puis c'est souvent ça. Puis ça a été une occasion exceptionnelle là, de faire un film, de c'est quoi porter un film, c'est quoi changer son corps. J'avais pris 40 livres, en tout cas, que j'ai pas tout à fait perdu. Là, mais bref, ça a été compliqué pendant 2 ans après, parce qu'au Québec, aux États-Unis, quand tu prends 40 livres, t'as un chèque de plusieurs millions et un coach et tout ça. Je vais vous dire qu'au Québec, c'est pas exactement ça qui arrive.
Non, c'est sûr. Le spectacle qui commence le 16 février, ça s'appelle Enfants du siècle.
Ouais.
Puis là, vous êtes pas un enfant, puis vous êtes pas le siècle non plus.
C'est... Non, en fait, c'est ce qui est arrivé, c'est que au début, c'était un spectacle qui s'appelait Kate Moss. Aucun rapport. Ben en fait, ça, ben oui, c'est ça. C'est que une affaire que j'étais comme, oh, ça va vendre ça. Puis je monte sur scène le premier soir, je dis, hey, ça a aucun rapport. Puis là, j'ai cherché. Puis dans ce temps-là, je lisais Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset, qui raconte en gros l'histoire d'un jeune homme perpétuellement triste qui pleure dans sa chambre tout le temps. Là, je m'identifiais beaucoup au personnage.
C'est là que votre père vous a dit à ta peine d'amour...
Lis jamais de Musset.
Jamais, parce que ça ira pas bien.
Non, ça ira pas bien. Il avait raison, hein, c'est ça le pire. Parce que c'est toujours dramatique, Musset, puis c'est quelqu'un qui pousse ses émotions au maximum. Puis dans la Confession d'un enfant du siècle, il raconte dans le fond l'histoire d'un jeune homme qui est mal pris entre une ancienne époque qui est l'époque napoléonienne puis le futur un peu industriel, la France. Puis je trouvais que ça me correspondait très bien puis que c'était un peu de ça dont j'avais envie de parler. C'était comment on fait pour trouver sa place dans un monde entre deux chaises un peu.
Quand vous dites ça, on a l'impression que vous avez peut-être la sensation de ne pas être né à la bonne époque.
Ouais.
Ça se peut, ça?
Ben, ça a été longtemps ça. Puis ça a été longtemps ça, ce qui fait en sorte que toute ma vie, je me suis senti un peu exclu. Puis il y avait aussi le fait qu'on le marquait. Oh, t'es, t'aimes la poésie. Ouais, c'est un peu spécial. Ça allait même jusqu'à tu fais du ski, que c'est ça. Mais c'était dans le Québec des années 90, des banlieues un peu mortifères. Là, fait que c'était baseball, hockey, l'hiver, l'été. Fait que le ski, c'était déjà particulier. Mais oui, il y avait toujours quelque chose qui me distinguait, ne serait-ce que mon nom aussi. Tu sais, Philippe Audrey la rue Saint-Jacques. On entend quand même l'absence de compromis là dans ce nom-là. Il y a quelqu'un qui n'a pas été content.
Est-ce que vous en voulez à vos parents?
Non, mais ça a été
long. Vous l'avez assumé?
J'ai fini par l'assumer. Mais le pire, c'est qu'au conservatoire, on a coupé mon nom. On m'a appelé juste Philippe Audrey, puis ça m'a vraiment fait de la peine. Puis c'était devenu un projet de vie de retrouver mon la rue Saint-Jacques. Mais ouais, non, il y a un côté où c'est vrai que je me suis toujours senti en décalage entre l'époque. Puis finalement, ben, en faisant ce spectacle-là, j'ai réalisé que non, c'est pas moi qui suis en décalage ni l'époque. C'est juste, c'est on est tous... En fait, c'est ça qui était intéressant à travers les bars, à travers les rencontres que j'ai faites, c'est que tout le monde se sent en décalage nécessairement.
Oui. Vous disiez tantôt, bon, ça n'a pas été facile à l'école, je me suis fait écœurer, j'étais pas comme les autres, puis je regardais des films, puis j'ai appris beaucoup, Vous étiez un solitaire ou...
Très. Ouais. Solitude imposée aussi. Parce que quand j'allais au parc, ben, il y avait les gars de la cour d'école qui étaient là. Fait que très souvent, j'allais dans les lieux où il n'y allait pas, nommément la bibliothèque. Fait que c'est comme ça que j'ai aussi développé mon amour de la littérature, de la poésie, de la monarchie, parce qu'il y avait des beaux livres et tout ça. Puis, ça fait en sorte que ben aujourd'hui ça donne ce que ça donne pour le meilleur et pour le pire, mais ouais, c'était très solitaire quand même comme enfance.
Cette passion pour la monarchie, là,
ouais.
Est-ce que c'est vrai ou c'est parce que c'est le personnage?
Non, c'est...
Quand je vous ai vu à LCN, là,
ouais.
Commenter sur la reine, là, je me suis pincé.
C'est-tu vrai?
Ben, je me suis dit, il est en stand-up, là, je peux pas croire que ça va analyser les funérailles de la reine.
Ben... Ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup d'experts en monarchie au Québec.
Je te le donne.
Ça, mais non, non, mais c'est vrai. Pour vrai, il y a une affaire que... Puis je relis ça beaucoup au théâtre. Moi, mon éducation, c'est beaucoup fait à travers le théâtre. Fait que déjà, quand t'es dans le théâtre, la royauté, la monarchie, c'est déjà très vivant comme sujet. Puis après ça, ben, ce que j'aime de la monarchie, c'est que en soi, t'as l'institution qui est assez plate, qui est assez drabe, qui est assez inintéressante, mais t'as tout le drame, t'as tout le jet set de la monarchie, ouais. T'as toutes les espèces de jeux de coulisses qui, littéralement, est nécessairement vraiment meilleur que Big Brother célébrité, là. Il y a quand même, en ce moment, deux frères qui sont en train de s'entre-déchirer sur la place publique, puis c'est quand même l'avenir de notre démocratie, parce que reste que on est dans une monarchie constitutionnelle, donc si ça se passe mal à Londres, il va avoir des répercussions ici. Fait qu'il y a quelque chose. Puis après ça, c'est de voir la déconnexion. Tu sais, dès que tu sens décalage, tu cherches quelque chose. Puis quoi de plus en décalage que un monsieur de 78 ans qui est pas capable de mettre de la pâte à dents sur sa brosse à dents comme le prince Charles, le roi Charles, faut dire maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un rôle. Expert en monarchie, je sais pas là.
Non, hein?
Je suis un amateur. Ça me fait plaisir de partager ma passion, mais de là à servir de pôle de référence, je sais pas encore toujours.
On a vu un certain nombre d'humoristes être capables de passer vraiment de l'humour. Tu sais, je pense à Patrick Huard par exemple, qui peut faire du drame, qui peut jouer des trucs très très sérieux, puis Michel Barrette, au début, je me souviens, les premiers rôles plus dramatiques qu'il a joué. Tu sais, au début, les gens étaient un peu étonnés. Est-ce que vous craignez ça, de dire, là, je suis un humoriste, puis un jour, on va m'offrir un rôle, puis tu sais, de faire l'espèce de transition entre les deux?
Bonne question. Je pense que non, parce que ça a toujours fait partie de moi, cette envie-là de faire du drame. C'est juste que je pense pas que j'ai eu la maturité, je pense pas que j'avais la technique non plus pour être bon acteur. Puis non, je pense que aussi, comme les exemples que vous avez cités font en sorte qu'aujourd'hui, la pluralité des genres est vraiment...
Oui, parce que longtemps, on les qualifiait d'usurpateurs, voilà, en disant qu'ils prennent la job de vrais acteurs, de vraies actrices.
Puis je pense qu'on a vu l'inverse, c'est Christian Bégin a commencé à faire du stand-up, Emmanuel Bilodeau, donc Fabien Cloutier qui mêle les deux. Fait que je pense qu'on est arrivé à une époque où cette pluralité-là, elle pose moins de questions qu'on pouvait en poser avant.
Qu'est-ce que vous avez à dire dans votre spectacle?
Je pars d'une prime. Ben d'abord que je vous aime beaucoup. Ça, j'en parle dans le spectacle.
Merci.
Non, mais que faut le savoir là. Je suis prêt à partir un GoFundMe pour vous garder, Monsieur Arcan.
Ça va très bien.
Non, pour vrai, vous êtes. Non, mais c'est parce que puis je voulais vous faire une suggestion. Là, ouais. Il va y avoir les grands chantiers, là, l'espèce de colloque où on va savoir que c'est mal géré.
Fluidité, mobilité. Voilà. C'est concept. Avec les parties prenantes.
Oui, ça va être super intéressant de savoir comment vont nous dire que ça a été mal géré. Voilà. Mais pouvez-vous faire une émission en direct de là-bas, peut-être.
Je pense pas qu'ils vont me laisser.
Ah non, mais ça serait bon, je pense.
Mais là, tu réponds pas à ma question.
Oui, non, mais... non, je fais comme un politicien qui est nerveux, là.
Ouais.
Non, mais en fait, ce que j'ai à dire, c'est simplement que ça a été très long avant de trouver la fin du spectacle. Elle est apparue, là, littéralement, il y a une semaine, où j'explique que, en fait, j'ai lu une phrase qui dit que la perfection n'existe pas, puis que c'est le triomphe de l'intelligence humaine de pas le comprendre. Puis que je trouve que, en fait, la vie, c'est ça qui est émouvant, c'est comment on navigue à travers notre temps pour essayer de chercher une perfection dans notre vie, tous et chacun. Après ça, ma perfection n'est pas la définition de l'autre perfection. Puis c'est cette espèce de quête sincère-là que j'essaie de parler. Puis après ça, je pense que c'est un message... Pour tous les gens qui se sentent un peu atypiques, puis tout ça, c'est un peu la constatation de quelqu'un qui s'est fait dire toute sa vie, ouais, t'es un peu différent, ouais, t'es pas pareil, ouais, t'as fait ci, puis qui s'est senti coupable de ça, puis qui finalement réalise que non, c'est pas moi qui suis coupable de quoi que ce soit, c'est ce que je suis, c'est comme ça. Puis tant qu'à chercher la perfection, tant qu'à voir qu'elle n'existe pas, c'est quand même beau de passer sa vie à la chercher. C'est à peu près ça, les lignes. Là, il y a des blagues, hein, en passant. Là.
Non, j'allais dire, ça allait d'une conférence d'un sociologue.
Ouais, là, c'est la pire mise en marché de l'histoire de l'humour.
OK, t'as 30 secondes de te reprendre.
Ben, Non, mais pour vrai, c'est à travers ça. Puis je parle évidemment de la pandémie. Je parle des grands sujets qui nous ont. Je veux dire, je parle des. J'essaie de toucher au comment dire, au malaise qu'on a par rapport à certains groupes, par rapport au mettons, j'essaie de jouer avec le fait que je suis pas raciste, mais tu sais, des jeux comme ça. Puis de toujours rester dans la ligne du bon goût parce que je veux pas choquer. Puis je veux pas me retrouver en entrevue avec vous quand vous êtes pas content.
Toujours disponible, c'est dans le trouble, hein? Les controverses, on est d'habitude gérer ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça fait plaisir.
Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, 16 février, il y a 12 représentations.
Voilà.
Et sur ton site web, toute l'info est là, bien sûr.
Exactement.
Merci.